t'a donné cette autorité. Les grands prêtres du temple et les pharisiens n'en démordent pas. Au nom de qui Jésus se permet-il d'enseigner, de pratiquer des exorcismes et de guérir? Les trois paraboles que nous avons entendues les trois derniers dimanches constituent des réponses à cette question. C'est le maître de la vigne, c'est le roi, c'est-à-dire Dieu qui donne à Jésus, le Fils de l'homme, d'accomplir tout ce qu'il accomplit. Alors, c'en est fait. Les pharisiens veulent prendre Jésus au piège. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Demande-t-il à ses opposants. Mais pour qu'il meure, bien sûr. La passion se profile à l'horizon. Comme les pharisiens ne peuvent pas avoir de sang sur les mains, et comme Jésus vient de démontrer sa supériorité dans le domaine spirituel, il ne reste aux comploteurs qu'une issue, trouver un motif d'ordre politique pour éliminer le gêneur. Mais c'est sans compter sur la supériorité de Jésus, y compris dans ce domaine. Les pharisiens agissent doublement de manière hypocrite. Primo, ils n'interviennent pas eux-mêmes, mais envoient leurs disciples faire le sale travail. Secundo, ils font poser la question piège après une prise de contact flatteuse, mais juste cependant. Jésus est bien un maître de vie dont toute l'existence se caractérise par la vérité et l'indépendance d'esprit. Or, voilà la question piège. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Si Jésus répond oui, il indispose les Juifs, notamment ceux qui combattent par la violence l'occupant romain, et il endosse l'habit du collabo. Si Jésus répond non, il rompt avec l'ordre établi par Rome en matière fiscale et risque d'être accusé de rébellion, une accusation qui peut aboutir à la condamnation à mort. Dans un cas comme dans l'autre, Jésus est fini. Or, en se faisant présenter la monnaie de l'impôt, Jésus trouve plus qu'une échappatoire habile. Il énonce une vérité, lui qui est toujours vrai, comme le disent justement malgré eux les disciples des pharisiens. Puisque la pièce d'un denier porte l'effigie de César, puisque c'est sur son ordre que la monnaie a été frappée, qu'on la lui rende, la logique est imparable. Se rendre à César ce qui est à César ne fait aucune difficulté. En revanche, la deuxième partie de l'assertion de Jésus oblige ses interlocuteurs à aller plus loin dans leur raisonnement et les place face à leurs propres responsabilités, et nous avec. Je m'explique. La plupart des discours en matière de sciences politiques, y compris ceux de la doctrine sociale de l'Église, se fondent sur cette sentence de Jésus pour justifier la distinction, voire la séparation stricte, entre le temporel et le spirituel. C'est sous ce régime que vit l'État en France, séparé de toute influence religieuse ou plus largement spirituelle. À première vue, nous aurions à nous féliciter de cette séparation, car elle garantit par exemple à l'Église l'absence d'ingérence du politique dans ce qui la constitue. Que Jésus soit le Fils de Dieu et qu'il soit mort et ressuscité pour nous, cela ne regarde pas l'État. Mais attention à la réciproque, nous dit aussi la doctrine sociale de l'Église. Si l'État n'a pas à se mêler des affaires de l'Église, est-ce à dire que l'Église n'a rien à dire des affaires de l'État? L'assertion de Jésus condamne-t-elle les chrétiens à l'ambivalence permanente, à vivre en eux-mêmes et dans leurs actions un écartèlement entre le temporel et le spirituel? Les autres lectures de ce jour nous permettent d'éclairer les propos de Jésus à l'aune de toute l'Écriture. La supériorité de Dieu est affirmée en toutes choses, y compris sur le plan politique. Cyrus, le roi perse qui met fin à l'exil des Juifs à Babylone, est appelé Messie par Dieu lui-même. Ce dernier met dans la bouche du prophète Isaïe des paroles on ne peut plus claires. « Je t'ai rendu puissant pour que l'on sache qu'il n'y a rien en dehors de moi. » La providence de Dieu se manifeste donc à travers ceux qui détiennent le pouvoir. Et en définitive, le Seigneur est roi. Il gouverne le monde avec droiture, par l'intermédiaire de ceux qui sont investis de l'autorité politique. Dans la lettre aux Romains, saint Paul va jusqu'à affirmer, je cite, « que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Reconnaître le pouvoir en place ne signifie pas toutefois en accepter les iniquités. Et Jésus, sur ce point, nous laisse l'exemple d'une parole exigeante, y compris avec les puissants. Lors de sa comparution devant Pilate, il ne nie pas le pouvoir de celui-ci, mais il le situe en dépendance de celui de Dieu, d'une part, et il dénonce l'injustice dont le politique se rend complice, d'autre part. Et l'histoire de l'Église nous donne maints exemples de cette parole forte des chrétiens quand le pouvoir politique outrepasse justement son pouvoir. Que l'on pense à Jerzy Popielusko, que l'on pense à Oscar Romero. D'une certaine manière, avec son « rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Jésus rappelle les droits fondamentaux de Dieu et il invente par là même la liberté de conscience de l'homme. Aucun pouvoir temporel, fût-il celui de l'empereur, ne peut contraindre quiconque en matière de foi. Il invente aussi le principe de subsidiarité, au pouvoir terrestre de gérer la cité terrestre, pourvu que cela soit en cohérence avec la loi divine. Mais allons donc plus loin avec Jésus. Ce qui est à César, on l'entend, c'est la monnaie à son effigie. Et ce qui est à Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'avons-nous donc à lui rendre? Qu'est-ce qui porte son effigie à lui? N'est-ce pas nous-mêmes qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, nous le savons, vous avez été choisis par lui. Être un Christ dans le Christ, être chrétien, c'est rendre au Seigneur par toute ma vie le bien qu'il m'a fait. C'est ressembler de plus en plus à l'effigie du Père, donc à Jésus. C'est aider chaque homme à découvrir, inscrite en lui, l'image de Dieu. Et cette image est inscrite de manière indélébile. Amen.